Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se plonge dans un numéro vraiment passionnant du magazine iDébat. C'est le numéro 18, daté du 15 décembre 2025. Et on a une série d'articles qui brossent un portrait assez fascinant des grands bouleversements mondiaux, tout en regardant ce qui se passe, ce qui anime le Maroc de l'intérieur.
Oui, c'est un numéro qui joue en permanence sur cette double échelle, le global et le local, et qui montre à quel point en fait les deux sont complètement imbriqués.
C'est exactement ça. Notre mission, si on peut dire, c'est de démêler un peu tout ça et d'en sortir les idées clés. D'un côté, on a ce que le magazine appelle le « grand réalignement géopolitique ».
Et de l'autre, un zoom très précis sur la société, la politique et l'économie marocaine.
L'édito donne le ton d'ailleurs. Il parle d'une époque où l'histoire semble s'accélérer.
C'est le sentiment général, oui. Et le principal terrain de jeu de cette accélération, selon les auteurs,
c'est l'Afrique.
C'est l'Afrique.
Alors, commençons par le joueur qui a 10 ans longtemps mené la danse, les États-Unis. Le dossier spécial décrit une doctrine américaine qui a pas mal changé.
Ah oui, on est très loin de l'image de la puissance bienveillante qu'on a pu connaître. Le magazine parle d'une approche America First qui est devenue purement transactionnelle.
C'est-à-dire ?
Chaque alliance, chaque partenariat est maintenant évalué à l'aune de l'intérêt américain direct et rien d'autre. Et leur vision de l'Europe, par exemple, est particulièrement cinglante.
Ah oui ?
Elle est décrite comme un partenaire en perte de vitesse. L'article va même jusqu'à parler de déclin économique et civilisationnel.
Déclin civilisationnel ? Ce sont des termes très forts, ça.
Très, très forts. L'idée derrière, c'est que Washington doit en quelque sorte secouer une Europe jugée trop passive pour qu'elle assume enfin ses responsabilités en matière de sécurité.
Et il y a des demandes concrètes ?
Oui, l'article mentionne une exigence d'augmenter les dépenses de défense à 5% du PIB.
5%, c'est énorme.
C'est une façon de dire « payez pour votre propre sécurité ». Nous, on a d'autres chats à fouetter.
Et j'imagine que l'Afrique fait partie de ces nouvelles priorités ?
Totalement. Fini le discours purement humanitaire. L'Afrique est maintenant vue comme un espace stratégique majeur, mais pas pour des raisons morales, pour ses ressources.
Les minéraux critiques, l'énergie.
Exactement. Le magazine résume ça très bien. On passe d'une logique d'aide à une logique d'investition.
Et derrière cet investissement, il y a un objectif à peine caché. D'adversaire total. C'est intéressant, parce que la compétition ne semble pas être principalement militaire, du moins pour l'instant.
Non, vous avez raison. La bataille est avant tout économique et infrastructurelle. La stratégie chinoise, telle qu'elle est analysée, est très méthodique, très patiente.
C'est-à-dire ?
Elle vise à construire une influence qui dure, en Afrique, via des projets très concrets. Des routes, des ports, des barrages. Et en parallèle, Pékin cherche à contrôler toutes les chaînes de valeur des minéraux essentiels. Le cobalt, le lithium.
Et les sources parlent d'un concept qui m'a interpellé. La création d'un système parallèle. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
C'est une expression forte, c'est vrai. En fait, l'idée, c'est de bâtir un écosystème commercial, financier et même technologique qui permettrait à la Chine et à ses alliés de contourner les barrières commerciaux ou les sanctions américaines.
Une sorte de mondialisation alternative, en quelque sorte ?
C'est tout à fait ça. Un projet de très long terme pour réduire la dépendance au système occidental.
D'accord. Alors, dans ce grand duel Chine-États-Unis, il reste deux autres acteurs importants, la Russie et l'Inde. Comment est-ce qu'on les positionne ?
De manière très différente. La Russie est décrite comme une puissance, je cite, « affaiblie mais dangereuse ».
C'est un peu paradoxal.
Oui, son poids économique est assez limité, mais elle compense par son arsenal nucléaire et sa capacité de nuisance. Militaire, numérique, elle est plus vue comme une force perturbatrice qu'un vrai pôle dominant.
D'accord. Et la stratégie américaine face à ça ?
Elle est double. D'un côté, contenir militairement. De l'autre, stabiliser pour éviter un effondrement qui serait totalement chaotique. Washington semble plus craindre le chaos russe que la puissance russe elle-même.
Donc un fauteur de troubles plus qu'un vrai concurrent. Et l'Inde alors ?
Ah, l'Inde, c'est la pièce intermédiaire. La pièce maîtresse peut-être ? Celle qui pourrait empêcher que le siècle se résume à un simple face-à-face Washington-Pékin.
Elle est courtisée, j'imagine.
Énormément. Surtout par les États-Unis, qui la voient comme un contrepoids stratégique indispensable à la Chine. En Afrique, dans l'Indo-Pacifique, son grand atout, selon les articles, c'est son soft power et une approche qui est perçue comme moins intrusive.
Ce tableau d'un monde en pleine recomposition, c'est le décor parfait pour comprendre l'introspection marocaine que décrit le magazine. On a l'impression que le Maroc se cherche un peu, qu'il est à la croisée des chemins.
Oui, et un des articles, Le Maroc et ses voix d'ailleurs, illustre ça parfaitement. Il analyse la réception médiatique d'un rapport étranger, Maroc 2035, qui a été co-signé par des institutions comme Sciences Po.
Et alors ?
L'auteur soutient que, sur le fond, le rapport n'apportait rien de vraiment nouveau par rapport au diagnostic déjà fait par les institutions marocaines.
Et pourtant, il a fait un bruit médiatique énorme. Pourquoi ?
C'est là que l'analyse devient intéressante. Le magazine y voit la preuve d'un besoin de validation extérieure.
Ah, c'est ça. Donc, si je comprends bien, le prestige de la signature étrangère a donné un écho démesuré à des idées qu'on connaissait déjà.
Précisément. Et l'article en tire une conclusion assez audacieuse. Il dit que le Maroc est en train de devenir une puissance en devenir sur le plan matériel, les infrastructures, etc., mais qu'il n'est pas encore une puissance récit.
Une puissance récit. J'aime beaucoup cette idée. Donc, on peut avoir les plus grands ports du monde, les TGV les plus rapides, mais si on ne maîtrise pas son propre storytelling, sa propre doctrine, on reste dépendant du regard des autres.
Et c'est ça.
C'est exactement l'idée. C'est la capacité à produire sa propre analyse, à définir sa trajectoire, sans attendre un sceau d'approbation venu d'ailleurs.
Et ce décarrage, on le retrouve dans un secteur vital, le tourisme.
Oui, l'article sur le tourisme parle d'un secteur en clair-obscur. D'un côté, des chiffres qui donnent le tournis.
Exactement. Des chiffres records. 16,6 millions de visiteurs en 2024. Une projection à 20 millions pour fin 2025.
La performance est là.
Invéniablement. Mais l'article gratte un peu sous le vernis et pointe des faiblesses structurelles.
Comme quoi, par exemple ?
Par exemple, la durée moyenne de séjour dans les hôtels classés est très faible, moins de 3 jours. Et la dépense journalière par touriste reste inférieure à celle de concurrents comme l'Égypte ou la Turquie.
Ce qui veut dire qu'on attire beaucoup de monde, mais qu'on ne capitalise pas assez sur leur présence.
Voilà. Et le vrai problème ? Le gros morceau soulevé par l'article, c'est l'essor d'un hébergement hors radar.
Airbnb, les riads non déclarés.
Tout ça. C'est un pan entier de l'économie touristique qui échappe à la fiscalité, à la régulation et même aux statistiques. Ça fausse toute la perception.
Mais comment on fait pour intégrer ce secteur informel ? Parce que c'est souvent là que les touristes cherchent une forme d'authenticité. On ne veut pas le tuer non plus.
La solution proposée est assez pragmatique. Il ne s'agit pas de sanctionner à tout va, mais plutôt de créer des cadres simplifiés pour intégrer ces acteurs, les accompagner vers la formalisation. L'idée, c'est de mieux capter la valeur, d'assurer une meilleure qualité et de rétablir une concurrence saine avec le secteur hôtelier classique.
Cette difficulté à construire un récit fort et à aligner l'image et la réalité, est-ce qu'on ne la retrouve pas aussi dans la vie politique ? Le magazine parle d'un encanaillement du débat public.
Oui, il y a un lien. Un article revient sur un incident au Parlement avec le ministre de la Justice, Abdelatif Ouabi. Ses propos envers une députée ont été jugés indignes. Et l'auteur y voit plus qu'un simple dérapage.
Le symptôme de quelque chose de plus profond.
Oui, d'une dégradation du débat où l'invective prend le pas sur l'échange d'idées.
Et pourtant, ce débat d'idées, il existe. Le magazine en donne un bon exemple dans sa rubrique Ping-Pong.
Absolument. Cette rubrique met en scène un débat passionnant entre deux chroniqueurs sur la place du parti de l'Istiklal au gouvernement. D'un côté, vous avez Aziz Bouceta qui appelle à une sortie de la coalition, pour des raisons éthiques.
Pour ne pas être comptable des problèmes des alliés, c'est ça ?
Voilà. Et de l'autre, Adnan Benchekroun défend le maintien au nom du pragmatisme. Il dit qu'il faut gouverner, surtout en temps de crise. C'est le dilemme classique entre les principes et les compromis du pouvoir.
Que ce soit en géopolitique ou en économie, le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est la technologie. Et j'imagine que le magazine se penche sur la grande question du moment, l'intelligence artificielle.
Bien sûr, et avec un angle très original. Un article du docteur Azedine Benani avance une thèse vraiment à contre-courant. Il explique que la course effrénée à l'IA XXL des géants comme Google ou Nvidia, eh bien, elle se heurte à un mur.
Un mur ?
La réalité physique et économique. Les coûts en énergie et en argent pour faire tourner ces modèles géants deviennent, je cite, « insoutenables ».
Et donc, la solution pour un pays comme le Maroc, ce n'est pas d'essayer d'imiter ça ?
Surtout pas. La stratégie devrait être de viser une IA frugale, sobre, éthique et souveraine.
Une IA frugale. J'adore ce concept. C'est l'exact opposé de la course à la puissance qu'on nous vend tous les jours. L'article donne des exemples concrets.
Oui, et c'est ça qui est intéressant. Pour un agriculteur, par exemple, une IA frugale ne va pas modéliser la météo mondiale. Elle va analyser, avec des capteurs locaux, l'humidité du sol de sa parcelle pour optimiser l'irrigation goutte à goutte.
C'est très concret. Et pour un médecin?
Pour un médecin, dans un dispensaire, ce serait un outil d'aide au diagnostic pour les maladies locales qui fonctionne sur un simple ordinateur sans connexion permanente à un cloud surpuissant. L'idée, c'est de répondre à des besoins locaux plutôt que de créer une nouvelle dépendance stratégique.
Et cette idée de souveraineté et de maîtrise, ça fait parfaitement écho à un autre article qui s'appuie, lui, sur un rapport de McKinsey. Il décrit ce qu'il nomme le paradoxe du leadership face à l'IA.
C'est un paradoxe qui est assez frappant. Les chiffres sont éloquents, la quasi-totalité des entreprises disent d'investir dans l'IA, mais à peine 1% d'entre elles se sentent vraiment matures dans son déploiement.
1%, c'est minuscule. Il y a un fossé énorme entre le discours et la réalité.
Un fossé gigantesque.
Et l'explication est surprenante. L'obstacle, ce n'est pas la technologie?
Non, pas du tout. Les outils sont là, ils sont de plus en plus accessibles. L'obstacle, c'est l'organisation. L'article pointe la gouvernance, la qualité des données, la culture d'entreprise, les silos entre les départements.
Donc, si je résume, on a les outils, on a l'argent, mais on n'a pas le mode d'emploi organisationnel.
C'est un peu ça.
C'est comme donner une Formule 1 à quelqu'un qui n'a que le permis de conduire classique. Le problème, ce n'est pas la voiture. C'est le pilote et toute l'écurie derrière.
C'est une excellente analogie. Les dirigeants hésitent, non pas devant la complexité de l'outil, mais devant la transformation profonde que l'IA exige de leur propre structure.
Et comment ils peuvent surmonter ça?
La conclusion de l'article, c'est que le véritable enjeu pour les leaders, y compris au Maroc, est de passer du discours sur l'IA à un vrai projet stratégique de transformation. Ça veut dire revoir la gouvernance, investir massivement dans la formation et surtout avoir le courage de briser les anciennes habitudes.
D'accord. Alors si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient de dire, quelle est la grande histoire que nous raconte ce numéro? On a l'impression d'un monde et d'un pays qui sont tous les deux en quête d'une nouvelle boussole.
Je crois que le fil rouge qui relie vraiment tous ces articles, c'est la notion de souveraineté. Mais une souveraineté pensée à plusieurs échelles. Il y a la souveraineté géopolitique, bien sûr, trouver sa place dans ce monde multipolaire.
Et la souveraineté économique, avec des secteurs comme le tourisme.
Exactement. Mais le magazine nous pousse à réfléchir à deux autres formes, peut-être plus nouvelles. La souveraineté narrative, cette fameuse puissance récit, la capacité à se raconter soi-même. Et enfin, la souveraineté numérique, pour maîtriser les outils qui façonnent notre avenir, comme cette IA frugale.
Et pour finir, comme toujours, une petite pensée à méditer, tirée dans des articles. En lisant ça, je me suis fait une réflexion. Le magazine mentionne qu'une nouvelle loi est à l'étude au Danemark. Et cette loi, elle vise à faire du visage et de la voix de chaque citoyen une propriété juridique personnelle, incessible, pour lutter contre les deepfakes.
C'est une idée assez radicale pour protéger l'individu.
Exactement. Et ça nous amène à la question finale. Alors que les nations redéfinissent leur souveraineté sur la grande scène mondiale, l'une des questions les plus importantes du XXIe siècle pourrait être celle de la souveraineté individuelle. Si notre propre image, notre voix, peuvent être clonées et manipulées à volonté, la prochaine grande bataille pour la souveraineté ne se jouera-t-elle pas, non pas aux frontières d'un pays, mais à la frontière de notre propre identité?